Chapitre 6. Toute la journée, Jean-Louis et Chantal avaient visité Nairobi, passant la plus grande partie de l'après-midi dans le parc national. Bayo avait peu parlé, car il allait d'émerveillement en émerveillement. Il lui semblait réaliser le rêve de son enfance. Mais contrairement à la plupart des rêves qui se produisent enfin, ce qu'il avait sous les yeux dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. Et d'abord, cette ville que Dorjal disait pourtant sans cachet, et qu'il avait immédiatement séduit, avec ses avenues bien tracées, bordées de frangipaniers et de flamboyants, avec ses maisons victoriennes, sa gare d'un autre âge, son bazar indien et ses quartiers africains. Au début du siècle, avait précisé Dorjal, Nairobi n'était qu'un petit village. À l'époque, la grande ville de la région, c'était le port de Mombasa, qui a d'ailleurs beaucoup plus de charme que Nairobi. Mais les Anglais ont peu à peu construit Nairobi, et bien entendu, ils en sont très fiers. Évidemment, les Noirs prétendent aujourd'hui que les Britanniques n'ont rien fait pendant 50 ans, et qu'ils se sont contentés de les exploiter. En fait, contrairement à l'Algérie, il n'y avait qu'une poignée de colons au moment de l'indépendance. Naturellement, ils auraient pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Depuis l'indépendance, on a tout rebaptisé, sauf quelques hôtels. Ça ne va pas tarder. Et on a déboulonné de leur statut les fondateurs de la patrie. Ce qui est injuste, car sans les Anglais, le Kenya n'existerait pas. J'avoue que je me suis mis à aimer ces Anglais du Kenya. Beaucoup sont en retraite et se contentent d'imiter Baden-Powell. Ils regardent le mont Kenya en attendant de mourir. D'autres travaillent dans les bureaux, tiennent un bar, enseignent l'anglais dans les écoles ou conseillent les ministres africains dans les coulisses. Il y a même, tenez-vous bien, un ministre blanc qui de plus est originaire d'Afrique du Sud. Le vieux Kenyatta n'est pas un saint et il aura deux ou trois comptes à régler avec Ngai quand il arrivera là-haut. Mais il en apprendrait en génie politique à nos politiciens français qui pourtant ne sont pas des enfants de cœur. Et puis, il y avait eu les animaux en toute liberté, les singes, les phacochères, les zèbres, les lions surtout, et des dizaines d'autres dont Bayo avait déjà oublié le nom. Mais là encore, Dorjal avait joué les rabat-joies. Évidemment, ça n'est rien à côté de ce que vous verrez à Tsavo, à Amboseli, à Manyara et surtout à Serengeti, où, au moment des grandes migrations, on peut voir des centaines de milliers d'animaux à la fois. Le parc de Nairobi n'est qu'un petit apéritif avant les hors-d'œuvre de Tsavo et le plat de résistance de Serengeti. Certaines espèces sont malheureusement en voie de disparition. Mais les gouvernements sont de plus en plus sévères avec les braconniers. Les vrais safaris, qui attirent les businessmen, les chirurgiens, les PDG, les notaires et les grands avocats, durent des semaines et coûtent des millions. Vous verrez la même chose, mais il vous manquera le rituel des safaris dont Ruark et Hemingway se sont fait les poètes. Au retour du parc de Nairobi, ils s'arrêtèrent à la terrasse du Thorn Tree, qui constituait naguère un des lieux de ralliement des colons et où se retrouvaient aujourd'hui Européens, touristes en safari et Africains en bourgeoisie. Les tables étaient disposées à même le trottoir, comme à Paris, et un énorme acacia avait été planté au milieu de la terrasse. À cette heure, la circulation était intense, et on voyait de temps en temps une Land Rover ou un petit car Volkswagen s'arrêter à hauteur du New Stanley et y débarquer une cargaison de touristes chargés d'appareils photo et d'énormes téléobjectifs. À deux pas du café, un Africain vendait placidement la presse locale et quelques revues anglaises. Parfois, un Africain arrivait dans un complet veston bien taillé et attendait la petite Anglaise en mini-jupe à qui il avait donné rendez-vous avant de filer dîner chez Lavarini's, le restaurant italien, et d'aller passer la soirée à l'Equator Club ou au Sombrero. « Ne prenez pas un café ici, il est infect, » déclara Dorjal. « Invraisemblable dans un pays qui produit du café. Mais je vous conseille un doigt de gin avec du gingembre. » C'est ce qui convient aux touristes de votre espèce. Quant à moi, si vous le permettez, je prendrai quelque chose d'un peu plus fort. La perspective d'une soirée à la maison me donne le cafard. » Il fit signe à un barman africain qui, après avoir fait semblant pendant 2 minutes de ne pas l'apercevoir, arriva sans se presser. « Ici, c'est comme sur la Côte d'Azur. Il y aurait intérêt à commander ses consommations par télégramme avant d'arriver. « L'été, gin and ginger, bilen à whisky, mbukwa, moja, tafadali. » Le garçon s'éloigna et revint 5 minutes plus tard avec les boissons. Cette lenteur des gens du coin, expliqua Dorjal, donne des crises de nerfs aux Européens. À la poste, il y aurait souvent intérêt à apporter un pliant. Mais, en un sens, il nous donne aussi une leçon de philosophie. À quoi bon se presser? Qu'on se dépêche ou non, la mort ne nous oublie pas. Il alluma une cigarette, puis reprit d'une voix soudainement plus basse. À force d'avaler des bouteilles de whisky et d'aller au cocktail, je me suis complètement démoli la santé. L'été dernier, j'ai dû aller passer 8 jours à Johannesburg. J'en ai profité pour aller voir un médecin. Cirrhose du foie. C'était inévitable. Je vais encore traîner quelque temps comme ça. J'espère tenir assez longtemps pour tirer mes gosses du besoin. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas eu le courage de le dire à Evelyne, mais je crois qu'elle s'en doute. J'ai vieilli de 15 ans durant les 5 dernières années. Evelyne aussi. En fait, elle est à bout de nerfs. Vous vous imaginez, mademoiselle, enceinte par 40 degrés à l'ombre et une chaleur humide à se balancer une balle dans la peau quand on était en Asie? Et le médecin, le meilleur du coin pourtant, qui arrive ivre-mort pour l'accouchement. 6 heures que ça a duré. Il a fallu attendre qu'il se dégrise un peu. Au moment du splashdown, j'ai failli tourner de l'œil. C'était des jumelles. Et depuis 3 mois qu'il la suivait en consultation, cet ivrogne n'y avait vu que du feu. Évidemment, hier soir, on a crâné pour la forme. Le Kenya, le paradis perdu, ça fait toujours bien en diapositive. D'ailleurs, le Kenya, c'est ce que nous avons trouvé de mieux. J'ai connu un Français qui y est revenu après 2 mois à la Jamaïque. Il avait le mal du pays. Et un autre, au bout de 9 mois au Cameroun, était prêt à organiser un coup d'État pour revenir ici. Il s'arrêta un instant et suivit du regard une jeune hindoue qui s'éloignait à pas lents. « C'est surtout pour les femmes que c'est difficile, » reprit-il. Les plus fragiles s'ennuient à longueur de journée. Rien à faire sinon aller papoter à l'Alliance française ou patauger dans une piscine en racontant les derniers ragots du coin. Et les ragots, ça ne manque pas. On sait sous les 8 jours qui couche avec qui. Il paraît que c'est l'altitude qui veut ça. Ici, tout est la faute de l'altitude. On compte sur les doigts de la main les gens mariés qui restent fidèles. Les filles sont tellement faciles qu'on n'a même pas à lever le petit doigt, sans parler du reste. Il faudra qu'un soir, Jean-Louis, je t'emmène aux Hallions, à 2 pas d'ici. On ne sera pas là depuis 15 secondes qu'une fille nous aura sauté dessus en nous mettant la main où je pense et en commandant un Coca-Cola. Elles sont prêtes à passer la nuit avec n'importe qui pour quelques shillings et parfois pour rien du tout, histoire de ne plus broyer du noir. Note bien que je ne leur jette pas la pierre. Tout ça, c'est notre faute. On a bousillé leur société. On a construit des bidonvilles et on y a entassé des gens. Et puis on a attiré tous ces gogos avec de magnifiques devantures où tout s'achète à crédit. Oui, on peut même acheter une chemise à crédit en 12 ou 15 mensualités. C'est une nouvelle forme de traite. Alors les Africaines ne savent plus à quel saint se vouer. Elles sont prêtes à tout pour payer la mensualité de leur soutien-gorge ou de leur bicyclette. Les hommes font pareil, mais c'est moins visible à Nairobi qu'à Mombasa. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'Evelyne fasse dans un tel milieu? Avec 4 gosses impossibles, un mari alcoolique, qu'elle soupçonne d'être infidèle, ce qui n'est même plus vrai, et la collection des ratés prétentieux qu'il faut se farcir au cocktail. Vous seriez surpris par le nombre de femmes qui se suicident. Pourtant, le Kenya est le plus beau pays du monde. Il désigna du bras la librairie qui, sous les arcades de Kimathi Street, faisait face au café. Je n'ai même plus le courage de lire. Et quand quelqu'un comme moi, pour qui la lecture a été un opium, arrête de lire, c'est vraiment la fin. Je suis au bout du rouleau, et Evelyne aussi. Si les deux rouleaux cessent d'avancer en même temps, nos gosses seront dans le pétrin. Toi, Jean-Louis, tu es un sage. Tu t'es arrêté à Philippe. Tu avais de quoi vivre largement et de quoi l'élever. Mais moi, dis donc, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tout juste licencié, je restais la bonne à tout faire que j'ai été dans une boîte libre des Deux-Sèvres de 1945 à 1950. Ah, c'était la belle époque. Il fallait faire des colonies de vacances pendant l'été pour se payer du chauffage en hiver. J'ai connu un collègue qui débitait de vieilles planches, un autre qui écrivait des romans porno pendant les compositions d'instructions religieuses. Il paraît que maintenant les choses ont changé. Moi, j'ai connu le bagne. Oh, un bagne sympathique. Mais on y crevait de faim. Quand ma mère est morte, j'ai dû t'emprunter de l'argent pour lui payer un cercueil. Le supérieur ne s'était même pas dérangé. Il était en cure à Vichy. À ce souvenir, son visage se crispa. Il poussa un soupir et avala d'un trait son verre d'alcool. Alors, poursuivit-il, comme s'il se parlait à lui-même, nous sommes partis pour l'étranger. On s'est démoli la santé, les amibes, la cirrhose et le moral à zéro un jour sur deux. Mais on vit bien, et on a pu élever nos gosses. Et me voilà attaché culturel dans un pays où les 8/10 des gens sont analphabètes. Je fais tamponner au nom de l'ambassade les livres de poche que la France m'envoie, et je vais les offrir en grande pompe à l'université. Alors qu'en France, on ne lit déjà plus que les bandes dessinées, à condition qu'il n'y ait pas trop de texte. La vraie faune du Kenya, ce n'est pas celle que nous avons vue aujourd'hui. Ce sont les gens comme nous, la diaspora des prolétaires, devenus diplomates par recyclage. Mais tu le sais bien, toi, Jean-Louis, car je suis sûr qu'au fond, tu n'as pas changé. Quand on est né dans la misère, on reste un cul terreux toute sa chienne de vie. On a beau mettre des cravates en soie, bomber le torse quand on marche aux côtés de l'ambassadeur, se faire imprimer de belles cartes de visite, comme ce jeune collègue qui, n'ayant pas de titre, avait marqué CEG, ce que les étrangers devaient prendre pour une sorte de doctorat. Oui, on a beau chercher à s'arracher sa peau de miséreux en la frottant avec un grand crin, de peur qu'elle ne sente le terroir, on n'y réussit pas. Et quand la nouvelle peau apparaît, on s'aperçoit qu'on n'a pas changé, et que moralement au moins, on restera un fauché toute sa vie. C'est vrai, murmura Bayot. Je n'ai jamais pu frayer avec les autres, et Corinne, dont le père n'était pourtant qu'un pharmacien de campagne, me disait que j'avais passé l'agrégation pour mieux cracher dessus ensuite. J'avoue qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Bayot termina son verre d'un trait. J'ai toujours pensé, reprit Dorjal, que ça ne marcherait pas avec Corinne. Excusez-moi, mademoiselle, de manquer aux convenances, mais j'ai beau être un alcoolique, je sais distinguer d'un coup d'œil les femmes qui sont des aristocrates de cœur et les sauterelles, dont vous ne faites pas partie. Corinne, c'était du beau vernis, tout en surface. Ce n'était pas toi qu'elle épousait, pauvre imbécile. C'était l'interne Bayot, celui dont tout le monde disait « il ira loin ». Ce n'était pas la fortune que tu allais faire qui l'intéressait. Non, elle était au-dessus de ça. Et tu t'en serais aperçu tout de suite. Non, elle imaginait ta carrière, qui serait sa carrière, celle qu'elle allait te mijoter. Et elle faisait ses plans, la demoiselle. Avec l'argent de papa, elle aurait pu t'aider à acheter un beau cabinet, ou mieux encore une petite clinique privée, dans un cadre charmant, là où les névrosés viendraient soigner leur dépression, pendant que leurs époux feraient les 400 coups avec leur maîtresse, sans oublier cependant d'envoyer le petit chèque pour payer le séjour doré de la pauvre chérie, si déprimée et si fragile. Voilà ce qu'elle entrevoyait pour toi. Roulement de tambour, voici que le grand directeur Bayot, le Saint-Michel de la schizophrénie, s'avance sous les projecteurs et que sa chaste épouse rosit de confusion. Il contempla un instant son verre vide, fut sur le point de rappeler le barman, puis se tourna vers Chantal. Alors, mademoiselle, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais vous avez là avec vous quelqu'un qui n'est pas un polichinelle. Il déteste qu'on le borde dans son lit. Et si un jour il décide d'aller à l'hôpital en pyjama, laissez-le faire. Ce sera pour emmerder les autres. Mais voilà que je deviens vulgaire. Pardonnez-moi, mademoiselle. C'est parce que je vous aime bien. Et mon vieil ami Jean-Louis aussi. C'est quand je fais des courbettes aux gens et que j'emploie le subjonctif imparfait que j'ai envie de leur cracher au visage. Il donna un coup d'œil à sa montre et se leva brusquement. Ça vous dérangerait beaucoup de rentrer en taxi? Votre hôtel n'est pas très loin d'ici. Il faut que je file à la maison. Dès que j'ai 10 minutes de retard, ma femme croit que je la trompe. Vous vous imaginez? 23 ans de mariage et elle en est encore là. Mais après tout, c'est ma faute. C'est moi qui ai tout raté. Allez, quaheri. Au revoir. Je file chez moi en marche arrière. Ils se serrèrent la main sans rien dire, et Dorjal se dirigea vers sa voiture. Elle était à 20 mètres du café, en stationnement interdit. Mais peu importait, il était diplomate. Nairobi, 4 juillet 1969. Mon cher Yves, nous devons sortir tout à l'heure pour aller dîner. Mais la journée a été éprouvante à bien des égards, et Chantal se repose actuellement. J'en profite pour t'envoyer de mes nouvelles et dire combien j'aurais aimé faire ce voyage avec toi, ce qui était malheureusement impossible. Certes, il y a Chantal, et je ne t'étonnerai pas en te disant combien sa présence et son amour me sont précieux actuellement. Je crois l'aimer, et j'avoue que si les circonstances avaient été autres, je l'aurais peut-être épousée. Je dis peut-être, car tout compte fait, je ne fais pas partie des gens qui se baignent 2 fois dans le même fleuve. Et puis, pourquoi chercherais-je à l'attacher trop à moi, alors que dans 6 mois au plus, tout sera fini? Je dois, au contraire, me détacher d'elle peu à peu, avant le dernier acte. Je sais que je te fais beaucoup de peine en t'écrivant cela. Je sais que je te manquerai plus qu'à quiconque. Car, d'une certaine façon, un ami est plus irremplaçable qu'une compagne. Et les confidences que tu m'as faites l'autre soir me font regretter de ne pas les avoir reçues plus tôt. Alors que dans ces cas-là, j'imagine, la parole d'un ami doit redonner confiance. Les confidences semblent d'ailleurs pleuvoir sur moi ces temps-ci. J'ai retrouvé ce pauvre Dorjal avec sa femme et ses 4 gosses. Tu ne le reconnaîtrais pas. Il est foutu, lui aussi. Mais ça traînera sans doute plus longtemps que dans mon cas, et ça sera autrement douloureux. Une cirrhose du foie, qui, d'après le teint du malade, doit être dans un état avancé. Et puis une hargne contre la vie qui m'a fait mal, bien qu'elle me rappela la mienne à certains égards. D'une étrange façon, tout ce que l'on me dit, Wallenberg, Philippe, toi, Dorjal, semble se recouper. Je n'entends parler que de l'effondrement de notre monde. Tout craque parce que tout est pourri, et peut-être aussi parce qu'on n'a rien fait pour réparer ce qui était réparable quand il en était encore temps. En Europe comme en Afrique, la révolution est, paraît-il, pour demain. En Europe, ce sera la révolution des jeunes, et en Afrique, la révolution des jaunes. J'imagine que tu as ton idée là-dessus, toi qui dévores la presse avec une boulimie que je n'ai jamais pu comprendre. Nous en reparlerons à mon retour. Je ne te parle pas du Kenya fabuleux. Si Dorjal n'avait pas joué les troubles faits, il fallait qu'il parle lui aussi, ce pays ressemblerait au paradis, tel que nous l'imaginions quand nous étions enfants. Hélas, le serpent rôde dans ce jardin d'Éden. Celui de la politique, dois-je le préciser. Dorjal m'assure que dans 10 années, peut-être un peu plus, ce sera le grand remue-ménage. Tu avoueras que toutes ces considérations m'enlèvent les ultimes velléités que j'aurais pu avoir d'envisager une cobaltothérapie. Évidemment, il y a Chantal, et il y a toi. Mais n'est-il pas préférable qu'elle garde de moi le souvenir d'un homme apparemment préservé par la maladie, plutôt que d'assister, impuissante, à ma lente et inexorable déchéance? Quant à toi, mon vieux Yves, tu as assez de vitalité pour trouver dans l'existence d'autres amis qu'un vieux maniaque de mon espèce. C'est du moins ce que je me force à croire. Mais, en fait, je n'en suis pas très sûr. Bon courage et vives amitiés d'un grand chasseur de fauves. Jean-Louis. Chantal et Jean-Louis prirent leur dîner au restaurant de l'hôtel Normandie, et un taxi les amena vers 10 heures à la porte de l'Equator Club, où ils avaient décidé de passer la soirée. Pierre Bostan, le jeune professeur de Kenyatta College, devait passer les prendre le lendemain matin. Après avoir signé leur nom sur un registre à l'entrée, pourquoi faire, grand Dieu, se demanda Bayot, ils montèrent l'escalier qui conduisait à la grande salle du club. Il y avait déjà foule, et ils eurent grand-peine à trouver 2 places assises. Ils commandèrent 2 gin and ginger. Au fond de la pièce, un orchestre accompagnait un grand noir qui chantait un air assez mélancolique, sentimental sans doute, où revenait sans cesse le mot Malaïka. « Nous dansons ?» demanda Chantal en le prenant par la main. « Tu sais bien que je danse comme un éléphant. »« Justement, c'est le pays. Tu ne te sentiras pas gêné. » Ils se dirigèrent vers la piste de danse, où des dizaines de personnes s'agitaient lentement au son de Malaïka. Ils s'enlacèrent. Jean-Louis sentit de nouveau la chaude douceur du corps de Chantal contre le sien. Il avait rarement désiré une femme avec une telle passion. Mais au Kenya, tout semblait si loin, si irréel. L'hôpital Léon Rostand, son appartement de la rue Comartin, les ridicules séances chez le notaire pour le divorce. De quand donc datait cette analyse? 3 semaines à peine. Il avait l'impression d'avoir toujours vécu avec cette certitude d'être condamné. Cela ne le gênait guère plus maintenant que l'idée de mourir d'une mort naturelle. Ne s'agissait-il pas d'ailleurs d'une mort naturelle? Les cellules menaient leur existence à elles, dans le secret de notre corps. Notre pensée, mais qu'était-ce au juste que la pensée sinon l'action d'autres cellules, ne pouvait rien contre le jeu normal des corps chimiques, de ces 23 000 milliards de globules rouges, de ces 50% d'eau qui constituaient chaque être humain. À quoi penses-tu, mon chéri? Oh, à rien, au plaisir d'être avec toi. Il l'embrassa doucement sur la bouche et la serra de nouveau contre lui. Un jour viendrait où les ondes de son cerveau s'arrêteraient sur un dernier mouvement, où le cœur donnerait son ultime battement, et où il redeviendrait, non pas poussière, mais matières organiques, sels minéraux, hydrogène et oxygène. Et sa pensée enfin s'arrêterait pour toujours. Ils regagnèrent à pied leur hôtel. Le centre de la ville clignotait au rythme des publicités au néon. La température était fraîche, et devant les principaux magasins de Kenyatta Avenue, un Africain drapé dans un sac ou un vieux manteau montait la garde avec un bâton devant un brasero. Des adolescents sortaient d'une tardive projection de cinéma, un film d'espionnage italien, si l'on en croyait les affiches. Grandeur et décadence des civilisations, songea Bayot. Hier, Rome régnait sur un des plus grands empires du monde. Pendant des siècles, les colonies romaines avaient prospéré. Aujourd'hui, l'Italie n'était bonne qu'à construire des gratte-ciels et des autoroutes, ou à exporter ses plus insignifiantes productions à Tripoli ou à Nairobi. L'Angleterre et la France n'étaient plus que de prétentieuses épicières qui envoyaient des représentants avec un abécédaire sous le bras pour mieux vendre leurs cocottes minutes, leurs carrosseries et leurs appareils à semer la mort. Sur leur gauche, ils avaient successivement aperçu la grande cathédrale catholique de Nairobi et plus loin, juste avant le Pan African Hotel, une église plus modeste qui rappela à Chantal celle qu'elle avait vue jadis en Écosse. Car l'Europe avait également envoyé ses missionnaires. Des croisés, le plus souvent admirables, qui avaient formé dans leurs écoles les révolutionnaires qui demain mettraient le feu à leur sanctuaire. Dorjal leur avait parlé de ce prêtre italien, qui, après avoir consacré de longues années aux indigènes, dans des conditions particulièrement difficiles, avait été assassiné 4 années plus tôt, alors qu'il construisait un dispensaire et une école. Pendant ce temps, des ecclésiastiques de salon formé à Rome, devait sans doute, dans quelque nonciature climatisée, représenter à Nairobi le vicaire du Christ, le vicaire des pauvres. « Je ne comprendrai jamais rien à l'homme, » murmura Bayou, tandis qu'ils atteignaient la contrescarpe qui menait à leur hôtel. « Toujours les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les mêmes chimères. » La technique occidentale est la plus extraordinaire du monde, et l'univers entier nous copie en nous critiquant. Mais nous avons perdu notre âme. Pour se faire élire, il suffit de promettre des parkings et des supermarchés. Encore quelques années, et nos cathédrales serviront de stations-service comme au Brésil, paraît-il. On va y faire les vidanges d'huile parce qu'il y fait plus frais que sur la place centrale. L'âme, Chantal, c'est ce que notre époque a oublié.